Ok Google, commande-moi sur internet un parapluie à commentaires débile. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Omar Sy a maintenant une salle de cinéma à son nom. Située dans la ville de Trappes où il a grandi, la décision fait polémique. Mais n'est-elle pas parfaitement logique dans le fond ? Il faut expliquer un peu l'histoire. À côté de ça, le Festival de Cannes a annoncé son jury et Dieu qu'il est sexy, des grands noms, divers corps de métiers et tous un lien profond avec le festival, on décortique ça ensemble. Dans la partie audio, on fera un bilan du box-office pour voir qui marche en salle et dans la partie vidéo, les sorties ciné à ne pas rater cette semaine. Et bien entendu, il y aura la question du public et le film Vermine. Oui, je suis méga à la bourre là-dessus, je l'ai enfin vu, il faut qu'on en parle. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux sur iTunes, sur Spotify et même sur YouTube en activant la cloche. Le pire podcast cinéma, vous le savez, c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Allez, ça m'a pas suffi vendredi dernier, il y a encore besoin de répondre à 2-3 excités parce que franchement, sans déconner, ça va plus du tout. Par où commencer ? Connaissez-vous Omar Sy ? Tout le monde connaît Omar Sy, tout le monde connaît Omar Sy. Du service après-vente des émissions jusqu'à Hollywood, tout le monde connaît Omar Sy, classé 3e au classement des personnalités préférées des Français. Et le premier, c'est toujours Jean-Jacques Goldman. Non mais il a compris comment ça marche, hein. Tu veux être apprécié des Français, la solution, tu fermes ta gueule. Et Omar Sy, il a tendance à pas trop la fermer sur un tas de sujets, c'est un mec assez engagé. Et forcément, quand se déroulent des événements autour de sa personne, ça fait nécessairement réagir. Et l'événement du moment, c'est un cinéma. Oui, tout à fait, un cinéma, une salle de cinéma qui porte désormais son nom et qui est située dans la ville de Trappes, dans le 78. 78, les Yvelines représentent « Je suis né dans le 78 ». C'est quoi cette salle de cinéma qu'on surnomme le Grenier à sel ? Eh bien, on va se faire un petit point histoire. Le Grenier à sel de Trappes, c'était à la base, au XVIe siècle, une grange qui servait d'écurie pour les chevaux, mais aussi d'atelier pour les maréchaux ferrants du coin. Il a ensuite été utilisé comme grenier à sel, d'où son nom, et très tôt au XXe siècle, en 1910 plus précisément, il est devenu une salle de cinéma, oui, un cinéma mono-écran, qui depuis 1980 a été classé dans la catégorie art et essai. Quand je dis cinéma mono-écran, ça veut juste dire que c'est un cinéma où il y a qu'une seule salle de cinéma à l'intérieur. Oui, à la base, c'était une grange, il n'y a pas la place pour beaucoup plus. Il était baptisé depuis les années 60 d'après le nom d'un réalisateur puisqu'il s'appelait le cinéma Jean Renoir. Mais suite à de nombreux travaux et l'envie aussi de lui donner une nouvelle jeunesse, il a été décidé de changer le nom pour le remplacer par une star venant de la ville de Trappes. Et tu cherches une star qui vient de la ville de Trappes, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, évidemment. Omar Sy. Alors s'est tenu il y a quelques jours l'inauguration du cinéma Omar Sy en sa présence et il a donné d'ailleurs un joli discours pour rappeler à quel point ce cinéma avait marqué sa jeunesse et son ouverture au monde du cinéma. Il raconte que gamin, l'école l'avait emmené voir Germinal là-bas, qu'avec ses potes il était allé voir Moonwalker. Je vais le citer directement parce que je trouve que ce qu'il a dit était plutôt joli. Omar Sy a déclaré « Si ça peut porter les jeunes de Trappes plus loin, plus haut, à chaque pas que je fais, vous êtes avec moi. J'aime ce que cette ville m'a donné. Il y a beaucoup de fierté et de joie. Ce qu'il y a de plus touchant, c'est que c'est un bâtiment public, ça fait du bien. J'ai eu des reconnaissances internationales, mais la reconnaissance des trappistes vaut plus que tout le reste. » Et perso, son discours, je le trouve super, parce que c'est un gars qui n'oublie pas d'où il vient. C'est-à-dire, malgré sa stature hollywoodienne aujourd'hui, eh ben, il parle avec fierté de ses racines françaises. Et ouais, c'est trop bien, c'est beau, c'est vachement beau. Bon, vous vous en doutez, dans cette émission, on va pas se contenter de dire c'est beau. C'est parti un peu en couille derrière. Parce que cette décision de nommer un cinéma à cinéma Omar Sy, elle a pas mal fait réagir les commentateurs. Et, quand je dis commentateurs, les commentateurs de plateau télé, voilà, qui aiment bien s'indigner de tout et n'importe quoi. Pour qu'on vienne pas déformer mes propos ni les leurs, je vais en citer quelques-uns et essayer de comprendre le pourquoi de leur mécontentement et d'expliquer pourquoi... Pourquoi ça tient pas beaucoup, quoi. Sur Sud Radio, André Berkoff a dit qu'on aurait pu inaugurer une salle de spectacle Omar Sy, mais avait-on vraiment besoin de débaptiser la salle qui portait le nom du cinéaste Jean Renoir ? Dans la continuité, l'avocat Juan Branco a été très mécontent sur X et il a balancé de son côté « C'est vraiment se soumettre à l'époque, au spectacle et au néant que d'effacer le nom du plus grand réalisateur de l'histoire de ce pays pour un acteur dont aucun film ne restera dans l'histoire, même la petite de cet art. Et lui devrait se sentir embarrassé d'avoir eu la boursouflure égotique suffisante d'accepter un tel geste. Ce qui le sauve, c'est qu'il sait probablement pas qui est Renoir. Alors, on va faire semblant de pas avoir lu la dernière phrase, qui est quand même du sacré mépris de connard. J'ai pas d'autres mots. De toute façon, je suis sûr qu'il connaît pas Renoir. Alors, moi, je suis certain qu'il connaît Renoir. Par contre, il a jamais entendu parler de ta petite tête. Et je pense qu'on aurait des débats vraiment rigolos sur le fait d'affirmer que Jean Renoir, c'est le plus grand cinéaste français de tous les temps. Ouais, je pense que tout le monde est pas d'accord avec toi à ce sujet. Voyez la grande illusion, voyez la règle du jeu. C'est formidable, c'est pas le débat. Non, le problème, visiblement, c'est d'avoir enlevé un nom pour le remplacer par un autre. Et que ça, cette décision de remplacer un nom par un autre, c'est absolument terrible, c'est horrible. Vous savez que c'est pas la première fois que cette salle de cinéma, elle est débaptisée? Avant de s'appeler Cinéma Jean Renoir, ce cinéma s'appelait le Cinéma Normandie. La première fois qu'elle a été rebaptisée, c'est pour y mettre le nom de Jean Renoir. Techniquement, le premier à avoir volé le nom de ce cinéma, c'est Jean Renoir. Ah, je suis désolé, c'est historique. L'idée d'appeler la salle Jean Renoir, c'était une décision à l'époque du maire communiste Bernard Hugo. Ce qui veut donc dire que déjà dans les années 60, il y avait des gauchistes qui renommaient des trucs par d'autres trucs. Est-ce que c'est pas ça, la source du wokisme? Et cette décision de renommer la salle à l'époque, ça a été mis en avant par un autre commentateur, le bon Jean Messia, qui a fait un tweet... Non, vous êtes pas prêts. Non, sans déconner, vous êtes pas prêts. L'unique cinéma de trappe, baptisé Grenier à sel cinéma Jean Renoir par le maire PCF Bernard Hugo dans les années 60, quand la ville était encore française, a été débaptisé. Ce sera désormais le cinéma Omar Sy, choix du maire gaucho kebabiste. Choix du maire gaucho kebabiste Ali Rabé. À part ça, le grand remplacement reste toujours un fantasme d'extrême droite. Gaucho kebabiste, ça me fume de rire. Est-ce que c'est un club? Est-ce qu'on peut avoir une carte de membre? Si on peut adhérer, sans déconner, j'adhère immédiatement. Bon, concernant Jean Messia, on pourrait aller au raisonnement le plus simple et rapide qui consiste à dire que c'est un tweet de gros raciste, quoi, voilà. Ah bah oui, désolé, les artistes noirs, en ce moment, c'est compliqué, hein. Entre Aya Nakamura et Omar Sy, vous avez beau briller à l'international, sur les plateaux de télé français, on n'est pas en train de faire des critiques esthétiques de vos œuvres. Mais on va pas tomber dans l'affirmation de ce genre de truc. Non, on va essayer de regarder un peu au-delà de ça. Est-ce que vous voulez qu'on compare vraiment la carrière d'Omar Sy et la carrière de Jean Renoir? Pourquoi pas? Moi, je suis parfaitement ok pour rentrer dans ce débat-là. Je pense que 10 minutes de la carrière de Jean Renoir explose l'entièreté de la carrière d'Omar Sy. Voilà, mais c'est vraiment ce que je pense, sans déconner. Mais, et je pense que c'est la seule réponse qu'on peut aborder aux gens qui disent ça, c'est... qui s'en fout? Le truc qu'ils comprennent pas, c'est que le nom d'un cinéma participe aussi à son attrait marketing. Et personnellement, je vois ce que le cinéma du Grenier à sel essaye de faire, et je trouve ça plutôt malin. On passe notre temps à expliquer que le public qui se rend dans les salles de cinéma est vieillissant, et que quand on aborde la question du cinéma art et essai, c'est de plus en plus compliqué d'attirer les jeunes vers ce genre de cinéma. Et en lui donnant un nom plus jeune, on participe à lui faire regagner un certain attrait. On le rend moins austère auprès de gens qui avaient la sensation de se ramasser un truc du style « Voilà, je vous prends de haut avec mon cinéma qui ne vous est pas accessible, blablabla. » Je dis pas non plus qu'il faut appeler tous les cinémas de France des trucs du style « Cinéma Fritz Corleone ». Non, c'est pas l'idée. Ça a de la gueule, mais c'est pas l'idée. Je dis juste que ça a un sens avec un mec qui a grandi à trappe et qu'en plus, ça se fait pas tout seul. C'est aussi conjugué à plein d'autres efforts autour. Déjà, c'est un cinéma où le ticket coûte 6 euros. Les lundis et les mercredis, il est à 5 euros. Et si t'as moins de 14 ans, il est à 4 euros. Ensuite, même quand ils diffusent des films américains indépendants peu connus, parce que c'est un cinéma RSC qui récupère parfois des films assez peu distribués, bah ils essayent de le conjuguer avec d'autres animations autour. Genre, j'ai vu que bientôt, ils vont diffuser Riddle of Fire, et bah ils te font une séance cinéma plus jeux vidéo. Ce qui est une idée brillante, parce que t'as des gamins qui vont se ramener en mode « Trop bien, je peux jouer à la console avec mes potes », et après tu leur diffuses un film qui serait pas allé voir de leur propre chef naturellement, mais qui va leur faire découvrir un autre truc. Le cinéma Omar Sy de Trapp est assez malin dans son approche du cinéma art et essai, dans son envie de le démocratiser au plus grand nombre. Et ce changement de nom, il s'inscrit surtout là-dedans. Rendre le cinéma accueillant, plus familier des jeunes de trappe, et leur faire comprendre que, oui, l'appellation art et essai, ça fait un peu pompeux comme ça, mais en vrai, c'est des films chambés que tu vas adorer. Puis en plus, le cinéma venait d'être entièrement rénové, c'était un peu le moment ou jamais de prendre cette décision. Après, je comprends qu'il y ait une forme d'élite bourgeoise désireuse de garder son petit précaré, ça arrive tout le temps. Mais comprenez qu'il y a d'autres gens qui essayent au contraire d'ouvrir cette culture à d'autres personnes, à d'autres profils, qui vont parfois que 2 à 3 fois au cinéma par an pour voir des gros blockbusters, leur dire non, regardez, vous pouvez venir voir d'autres choses. Et cette démarche-là, bah, je vais jamais la condamner. Putain, on se plaint tout le temps que le cinéma doit se renouveler. Ça fait partie de ça aussi. Et je sais très bien que le problème avec Omar Sy, c'est pas que ce cinéma-là, bien évidemment. Il y a des gens qui critiquent le fait qu'il soit parti vivre aux États-Unis, d'autres qui aiment pas certaines déclarations que le bonhomme fait. Alors qu'en vrai, ce que dit Omar Sy, c'est tellement consensuel. Non mais sans déconner, vous avez vu sa dernière déclaration chez Quotidien? Il a dit un truc du style, faut réunir le groupe, il faut qu'on s'entraide, on est tous copains. Putain, je connais des mecs tous les jours à la télé qui disent plus de dingueries en se brossant les dents le matin qu'Omar Sy sur l'année entière. Mais étrangement, Omar Sy, il peut pas dire bonjour sans se faire rafaler. C'est incroyable. Non, et puis si vous voulez attaquer les gens sur des petites phrases qu'ils ont dit dans le passé, on peut faire ça sur Jean Renoir aussi, hein. Sans difficulté. Ah, vraiment, y a pas besoin de se mouiller. Je veux dire que Jean Renoir, on se rappelle qu'il a quitté la France en 1940, qu'il a fui aux États-Unis, et à cette époque-là, il a déclaré à un journaliste: je me suis stupidement compromis avec le Parti communiste et les gens de gauche, mais le temps travaille pour moi, je reviendrai en France. Hitler est un homme à ma main, et je suis certain que nous nous entendrons très bien tous les deux, car nous sommes confrères. J'ai été victime des juifs qui nous empêchaient de travailler et qui nous exploitaient. Quand je reviendrai, je serai dans une France désenjuivée, où l'homme aura trouvé sa noblesse et sa raison de vivre. Ouais, c'était la guerre, c'était un autre contexte, c'était dans le passé. Mais du coup, ouais, si on condamne pas les propos dans le passé, il va falloir le faire à tous les niveaux, hein, pas juste quand ça vous arrange. Je me souviens personnellement, à l'époque de la sortie de X-Men Days of the Future Past, j'avais 20 ans, et je me souviens voir apparaître Omar Sy sur l'écran en super-héros X-Men. Et j'ai ressenti de la fierté. Premier degré, j'étais fier d'être français en voyant ce mec-là débarquer aux États-Unis, de me dire « putain, il y a un français, c'est un super-héros, c'est trop bien !» Vraiment, je me disais « c'est stylé, on a un français en train de percer dans le milieu américain, un super-héros en plus !» C'est le genre de truc où tu te dis « bah regardez, les français au milieu des américains, ils ont encore trop la classe !» T'es fier d'être français quand tu vois ça, vraiment ! Perso, je suis super fier d'être français, c'est un pays que j'adore. Mais elle est où la fierté face à autant de commentaires minables ? Je sais pas, je sais plus. Bon, et si on reparlait un peu du Festival de Cannes ? Ça fait un moment qu'on l'a pas fait, ça fait une émission, voilà. Bon, ça fait pas si longtemps, en fait. Eh, faut vous habituer, hein. Le Festival de Cannes, c'est dans 2 semaines tout pile. C'est un peu ce qui fait vibrer l'actualité cinéma du moment. D'ailleurs, on parle de Cannes, je sais pas si vous avez vu passer, ils ont balancé la première image du Mégalopolis de Coppola. Alors, on voit pas grand-chose dessus, hein, globalement, c'est Adam Driver, mais ça ressemble un petit peu à du numérique façon Wachowski. Donc, je suis très intrigué, j'ai très hâte de voir ça. Ils ont aussi balancé l'affiche d'un autre film en compétition, le Christophe Honoré Marcello Mio. Et ouais, bon, j'ai la ref, mais c'est sacrément hideux, quoi, c'est terrible. Et ils ont aussi sorti le teaser du prochain Dupieux, mais vu que c'est un teaser, vous savez, les teasers, c'est dans l'émission du vendredi, donc on en parlera dans 2 jours. Non, aujourd'hui, on parle du jury, et on va revenir un petit peu sur les gens qui vont juger les films de la compétition cette année. Vous le savez, la présidente, c'est Greta Gerwig, et j'avais déjà expliqué dans une émission précédente pourquoi c'est un choix ultra pertinent de la prendre. Une personne qui a à la fois connu le cinéma indépendant et fauché américain, mais aussi les grosses productions, qui a eu plusieurs casquettes, elle a été réalisatrice, elle a été comédienne. Non, c'est assez pertinent de la mettre elle en présidente du jury, surtout vu le succès qu'elle a fait l'année dernière. À ses côtés, on retrouvera tout d'abord Ebrie Celan. Alors Ebrie Celan, elle est scénariste et photographe, et vous l'entendez au niveau du nom de famille, Celan, oui, c'est la femme du réalisateur Nuri Bilge Ceylan. C'est un habitué de Cannes et elle a coécrit plusieurs de ses films, dont notamment Winter Sleep, qui a reçu la Palme d'Or, et aussi Le Poirier Sauvage, qui est revenu en sélection officielle des années après. Avec elle dans le jury, il y aura aussi Lily Gladstone. Alors Lily Gladstone a été déjà présente l'année dernière sur La Croisette quand elle est venue présenter Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Alors, elle n'a pas une carrière d'une longévité dingue, mais elle a quand même marqué l'année en étant la première comédienne amérindienne à être nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice. Ça, c'est pas rien et c'est important de le noter. On continue avec les comédiennes dans le jury. Il y aura aussi Eva Green. Alors, c'est marrant. Sur le site officiel, dans sa bio, il cite aucun film qu'elle est venue présenter à Cannes. Alors qu'elle est venue 2 fois déjà. Elle est venue en 2014 pour présenter en hors compétition le film The Salvation avec Mads Mikkelsen dans le premier rôle. Mais, bah ouais, surtout, en fait, le vrai rôle qui fâche, c'est sa montée des marches en 2017 pour un film dont elle tenait le haut de l'affiche, à savoir D'après une histoire vraie. Le truc qui pose problème, c'est que le film est réalisé par Roman Polanski. Donc il y a des photos d'elle en train de monter les marches il y a quelques années à peine, bras dessous avec Polanski. C'est vraiment bizarre qu'ils aient oublié de noter ce film dans sa bio. Trop bizarre. Après, dans le jury, on a la réalisatrice et scénariste Nadine Labaki. Alors, elle est déjà venue plusieurs fois à Cannes, beaucoup autour de la compétition Un Certain Regard. Elle y a présenté en 2011 et maintenant Où on va. Et elle a été membre du jury Un Certain Regard en 2015 et ensuite même présidente en 2019. Mais le film qui lui a permis d'être vraiment remarqué, c'est quand elle est venue présenter en compétition officielle en 2018 Capharnaüm, qui est reparti avec le prix du jury, ce qui est pas rien. Et je me rappelle l'avoir vu justement à Cannes en 2018 Capharnaüm et être sorti de la salle. Ouais. Non, j'avais trouvé le film larmoyant pour pas grand-chose. J'étais resté complètement extérieur. J'avais trouvé l'expérience assez désagréable. On continue dans le jury. Sera aussi présent Juan Antonio Bayona, dont la seule présence à Cannes vraiment remarquée, c'était en 2007, quand il est venu présenter son premier long-métrage à la Semaine de la Critique. Son premier long-métrage étant L'Orphelinat. C'est vachement bien, L'Orphelinat. Et ensuite, ses films suivants n'ont pas eu droit aux honneurs de Cannes. Non, The Impossible et Quelques Minutes Après Minuit, c'était à Toronto. Jurassic World, Fallen Kingdom, c'était juste pas bien. Et Le Cercle des Neiges, c'était la clôture de la dernière Monster l'Orchestra de Venise. Toujours dans le jury, l'Italien Pierfrancesco Favino. Alors, Pierfrancesco Favino, c'est un habitué. Il a sa carte de membre. Dans ses venues récentes, on peut citer le rôle principal qu'il tenait en 2018 ou 2019, je crois que c'est... Ouais, 2019, dans Le Traître de Marco Bellocchio. Très intéressant. Et il est revenu en 2022 avec Nostalgia de Mario Martone. Ça, c'était beaucoup moins intéressant. Un autre habitué de la croisette qui va faire partie du jury, c'est le japonais Hirokazu Koreeda. Alors lui, on a arrêté de compter les films présents. On va juste compter les films récompensés, parce que c'est déjà beaucoup. Nobody Knows en 2004, qui a reçu le prix d'interprétation masculine. Tel père, tel fils, c'était tellement bien. Prix du jury en 2013. Et Une affaire de famille 2018, là, c'est Palme d'Or. Et il a encore eu ensuite le prix d'interprétation masculine pour Les Bonnes Étoiles en 2022. Et L'Innocence l'année dernière, prix du meilleur scénario. Globalement, Koreeda, il fait partie des meubles. Et le dernier membre du jury de ce Cannes 2024, mon Dieu, tout se recoupe dans cette émission, c'est formidable, c'est Omar Sy. Voilà. Et oui, tout se rejoint. Alors, Omar Sy, il a eu qu'une seule participation au Festival de Cannes, c'était en 2022 quand il est venu présenter dans la catégorie Un certain regard, le film Tirailleurs. J'étais pas fan de Tirailleurs. En fait, j'en parlais dans la partie précédente, je vous disais que ce que dit Omar Sy, c'est pas si radical que ça. Bah, Tirailleurs, voilà, c'était un film pas si radical que ça. Il y a vraiment certaines thématiques primordiales qui avaient vraiment été laissées sous le tapis pour laisser place à un thriller un peu basique dans le milieu de la guerre. Ouais, un peu décevant, un peu creux, Tirailleurs. Mais ce qui n'est pas creux, c'est ce jury dans son intégralité qui décuple tous les horizons et qui est d'une beauté absolument dingue. Non, vraiment, je trouve le jury de cette année vraiment malin et vraiment diversifié. La compétition approche fort, on sera là pour en parler. Moi, je vous avouerai que j'ai juste trop hâte de me dire que dans deux semaines, je vois un nouveau film de Quentin Dupieux. Rien que ça, ça me rend particulièrement heureux. Vous inquiétez pas, ça aussi, on en reparlera. Et pour l'instant, on avance. Et si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties à ne pas rater dans les salles cette semaine. Mais nous, de notre côté, c'est l'heure du point box-office qui marche dans les salles. Bon, globalement, dans les salles, il n'y a toujours pas de gros cartons pour l'instant. Il y a des films qui marchouillent, mais globalement, le public est très polarisé entre plein de propositions différentes. Vraiment, les salles sont remplies de trucs, mais il n'y a pas un événement qui sort du lot. Les gens viennent, hein, clairement les gens viennent, mais on n'a pas de gros phénomènes marquants qui emportent tout sur son passage. Et on va voir en mai si certains vont réussir à le devenir, parce que le mois de mai, on va quand même avoir Fall Guy, La Planète des Singes, on va avoir If, on va avoir Furiosa. Peut-être que ça changera la donne. Mais pour l'instant, où est-ce qu'on en est dans les salles de cinéma? Le premier des nouvelles sorties, c'est le biopic sur Amy Winehouse, Back to Black, qui fait 282 000 entrées sur 424 copies. C'est pas mal, mais on est loin du succès du biopic sur Bob Marley. Alors si ça se maintient, ça peut espérer taper le million d'entrées, malgré en plus des retours peu positifs. En fait, c'est souvent ça avec les biopics musicaux. Les gens, ils veulent entendre de la musique et voir un type qu'ils aiment bien. Le reste, ils s'en fichent un peu. En deuxième position, c'est la comédie N'avoue Jamais avec André Dussolier, Sabine Azéma et Thierry Lhermitte, qui fait 188 000 entrées sur 474 copies. J'en parlais tout à l'heure, la France a un public vieillissant et avec ce film-là, ils ont ciblé les vieux et banco, voilà, ça touche dans le mille, ça fait venir les vieux en salle. Des vieux en plus particulièrement présents, le score est un peu au-dessus des comédies françaises habituelles sans être particulièrement dithyrambique. En troisième position, c'est Frères avec Yvan Attal et Mathieu Kassovitz qui fait 184 000 entrées sur 346 copies. Ça fait quasi autant que N'avoue Jamais, ça peut aller chercher les 500 000 entrées. Par contre, il y a un truc qui est un peu étonnant si vous allez sur la page Allociné du film, il y a eu une vague de notes à 5 étoiles un peu étrange, probablement encouragé dans les avant-premières. Si vous voulez vraiment les vraies notes du film, cherchez plutôt sur Letterboxd ou Allociné. Et enfin, quatrième position des nouveautés, Challengers. Oui, vous êtes peut-être étonné de voir Challengers si bas. Il fait 150 000 entrées sur 370 copies, malgré sa très très grosse promo. Bah, c'est pas dingue. J'avais le sentiment, ouais, de voir une sorte de bulle où tout le monde en parle, mais visiblement, pas tant de gens y vont. Les autres nouveautés à côté ont des scores catastrophiques, mais il faut dire aussi qu'elles ont été assez peu distribuées. Le Mangeur d'âmes fait 14 000 entrées sur 81 copies. Première affaire, dont je vous avais parlé, fait 13 000 entrées sur 99 copies. C'est horrible. Et Skydome 2123, dont je vous avais fait la critique, fait 7 000 entrées sur 93 copies. C'est extrêmement compliqué, cette affaire. Pour les films sortis les semaines précédentes, Kung Fu Panda 4 est toujours dans le top 2. Il fait plus de 233 000 entrées. Il atteint un total de 2 millions. Donc c'est un très joli score qui va atteindre largement celui des précédents. Du Cobu Passover continue de surprendre. On croyait le film mort et enterré pendant sa première semaine, mais non, surprise, plus 181 000 entrées. Il en est à 805 000 entrées. Il va atteindre le million comme les films précédents. J'ai un pote qui me disait, il faut vraiment que ce film-là pousse Elise Moon à faire le multiverse de tous les Du Cobu, même les ceux qui ont vieilli maintenant. J'espère que ça arrivera. Je veux voir le Du Cobu multiverse. Pour les autres continuités, SOS Fantôme fait 722 000 entrées au total. Civil War, on est à 426 000. Et nous, les Le Roi de Florent Bernard, fait fait 460 000 entrées, il va aller taper les 500 000 très probablement. Et c'est cool, c'est super, quelle belle surprise. Mais ça n'empêche pas que on sait que les Français vont peu au cinéma. Ils vont voir en moyenne 3 films par an. Et du coup, dans ces situations-là, ils privilégient les événements, les gros films dont tout le monde parle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des gros événements toutes les semaines. On a la possibilité en France d'avoir une richesse de dingue en salle, un cinéma du monde qui est complètement fou. Le problème, c'est que ce cinéma du monde peine encore à convaincre le grand public de se déplacer. C'est surtout parfois des films pour sortir les enfants, des choses comme ça. On en revient à ce que je disais tout à l'heure avec Omar Sy, il faut réussir à attirer ce public, lui proposer d'autres choses, pas juste les gros événements. Maintenant, plus que jamais, allez au cinéma. Il y fait beau, il y fait chaud.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une, eh ben ensuite, je la sélectionne si j'ai un truc à raconter dessus et elle passe dans l'émission. Le plus simple pour rien rater, c'est de me suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, la question nous vient de Camper qui demande « Que penser de la fermeture du UGC Normandie ?» Eh ben que c'est d'une tristesse infinie. Et ça fait un autre cinéma Normandie qui disparaît. C'est ouf, ça me rappelle encore quelque chose. Tous les sujets se recoupent aujourd'hui, c'est formidable. J'en avais parlé il y a quelques émissions, il y avait une menace sur le cinéma UGC Normandie situé sur les Champs-Élysées qui était menacé de fermeture. On n'était pas sûr, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver. On a eu la confirmation, ça va arriver. Et ça va arriver assez rapidement d'ailleurs. Non, on va pas avoir beaucoup le temps de se reposer là-dessus puisque les portes du UGC Normandie fermeront définitivement le 13 juin. Ouais. Rapido. La raison invoquée, c'est que les gens qui possèdent le bâtiment refusent de baisser le loyer qui est devenu juste absolument astronomique et que même un groupe comme UGC et tout le pognon qu'ils disposent, ils sont pas en capacité de payer un tel loyer. À une époque, on parlait de 15 000 euros le mètre carré. C'est débile. Tu conjugues ça au fait que les cinémas font moins d'entrées, bah du coup UGC, ils ont pas les moyens d'entretenir encore un lieu comme celui-ci. Si vous recherchez des responsables, j'ai dit les gens qui possèdent le bâtiment refusent de baisser le loyer. Les gens qui possèdent le bâtiment, c'est la famille royale du Qatar. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi tout ça est d'une tristesse infinie? Bah déjà parce que c'est un cinéma magnifique, voilà, il faut se le dire. Cette immense salle avec ce plafond ultra reconnaissable, c'est vraiment un lieu avec une architecture très particulière. C'est pas juste perdre un cinéma, c'est aussi perdre une partie du patrimoine parisien. Un patrimoine qui a eu passé bon nombre d'événements et d'avant-premières internationales, ce qui est absolument évident parce que on passe notre temps à vendre aux Américains que les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Et du coup, bah quand tu fais une avant-première, t'as tendance à la faire à cet endroit-là. Sauf qu'aujourd'hui, l'avenue en question, bah elle fait sacrément de la gueule. Les cinémas ont disparu, la culture a foutu le camp des Champs-Élysées, tout ça au profit d'un paquet de boutiques de luxe, quoi. Je vais pas sombrer dans l'argument nostalgique pourri, mais moi aussi, j'ai grandi avec cette image des Champs-Élysées où c'est un lieu de rencontre et de culture, où tu vas au cinéma, puis après tu vas boire un coup au troquet à côté, puis il y a des restos, c'est accessible, c'est tout Paris qui se mélange à l'intérieur des Champs-Élysées. Les premiers films que j'ai vus à Paris, je les ai vus sur les Champs, parce qu'il y a une sorte de magie qui s'en dégage. C'est pas juste « je vais au cinéma », c'est « je vais au cinéma sur les Champs-Élysées », quoi. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, c'est quoi à part un attrape-touriste ou un parc d'attractions pour bourgeois fortunés venus dépenser leur thune dans toutes les boutiques Louis Vuitton, quoi. C'est déprimant. Alors, si vous voulez profiter une dernière fois de ce lieu emblématique, sachez que à partir d'aujourd'hui est organisé dans le cinéma tout un circuit de projection nommé Merci UGC Normandie, un mois pour 50 ans d'histoire, et qui veut justement retracer à travers toutes ces projections une partie de l'histoire du cinéma. Il va y avoir des masterclass à l'issue des projections, et c'est vraiment large, tous les films sont diffusés. En gros, genre aujourd'hui, t'as 2001 présenté par Yann Kounen, le 4, t'as Drive avec une masterclass de Jean Labbadie. En fait, si vous voulez voir des grands films dans cette grande salle mythique qui s'apprête à disparaître, c'est un peu le moment ou jamais. Le Normandie, c'est une ouverture le 4 février 1937, une rénovation en 1969, une salle magnifique et une disparition à venir qui va une fois de plus priver les Champs-Élysées d'une partie de sa culture et de son histoire. Tout ça à cause de l'égoïsme bourgeois des Qataris. Voilà, non mais c'est pas grave, pleurez pas, ça va devenir, je sais pas, un showroom de voitures de luxe. Hein ? On aura gagné au change. Et la culture aura perdu.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, bah, c'est pas moi qui parle de film. Donc si vous voulez passer dans l'émission de vendredi, dans la prochaine, eh ben, envoyez un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Vous parlez du film que vous voulez, récent ou non, le film qui vous fait plaisir. Moi, j'écoute tous les audios, j'en mets certains de côté pour plus tard, etc. Bref, j'écoute tout, j'en sélectionne un et il passera dans l'émission. Et en parlant de films récents ou non, je parle souvent de films d'actualité dans cette partie. Mais là, j'ai envie de vous parler d'un film qui est sorti il y a 4 mois en France et qui a mis du temps à arriver ici au Québec. Je l'ai enfin rattrapé. Il fallait que je vous en parle. Vermine.
Mais ça m'intéresse à mort.
Fais gaffe quand même, hein.
T'inquiète, je te dis. Moi, je suis un pro. Je te ramène à la maison.
Let's go.
Oui, je suis extrêmement à la bourre, mais comme vous le savez, j'habite encore pour l'instant au Québec, et du coup, les films français, ils mettent un peu de temps à arriver par chez nous, faut attendre les sorties VOD. Et la sortie VOD, elle est arrivée il y a quelques jours, il est sorti ici sur la plateforme Shudder, je me suis jeté dessus le lendemain de sa sortie, et c'est quelque chose. Sans déconner, c'est quelque chose. Je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler le pitch, on est en banlieue parisienne, aux arènes Picasso de Noisy-le-Grand, d'ailleurs, quel bâtiment absolument magnifique. On est en cité et Caleb ramène dans une petite boîte une petite araignée, malheureusement mince, la petite boîte elle contient pas l'araignée, l'araignée s'échappe et elle va se reproduire, faire plein de bébés qui vont devenir de plus en plus gros, contaminer tout l'immeuble, manger des gens. C'est ça le pitch de Vermine. Et rien que ça déjà, il y a un truc à noter sur la qualité de l'écriture. Parce qu'un pitch comme ça, c'est pas facile à amener. Soit tu tentes le surnaturel, le truc, oh mince, par hasard, il y avait une araignée dans le coin et donc ça te fait un film qui est un peu gratos quand même. Soit t'essayes de construire de l'humain autour, que l'araignée soit en fait le prétexte aux relations humaines que vont dépeindre le film. Et c'est le choix extrêmement malin que fait Vermine. Toutes les décisions d'écriture servent l'horreur du film, mais ramènent toujours à l'humain. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a une araignée? Bah parce qu'il est fan des bestioles. Pourquoi est-ce qu'il est fan des bestioles? Bah parce qu'avec son meilleur copain, c'était leur rêve quand ils étaient jeunes. Pourquoi son meilleur copain est pas là? L'écriture est assez maline pour dépeindre son ambiance oppressante sans jamais délaisser les relations interpersonnages. Ce qui fait que rien n'est jamais gratos. Et rien que ça, bah oui, je trouve ça profondément admirable. Surtout qu'on en a vu des films qui singent la banlieue, qui le font super mal. Là, j'ai rien trouvé de particulièrement déconnant. J'ai trouvé que, encore une fois, les dialogues étaient assez bien tenus pour servir à la fois l'horreur et les personnages et surtout les comédiens qui allaient les interpréter. Sachant que moi j'avais peur parce que je me disais, putain, Jérôme Niel, je connais vachement son image du web, du coup est-ce que je vais réussir à rentrer en empathie avec lui? Finnegan Oldfield, on a bossé ensemble, du coup j'avais vraiment un truc de, ouais, est-ce que je vais réussir à croire à son personnage? J'avais peur en fait. Mais les personnages sont assez bien construits et servis par les émotions du film pour que ça fonctionne, pour que tu rentres en empathie, pour que t'aies peur pour eux, pour que tu rigoles avec eux, et rien que ça, vraiment, Vermine, avant de parler de quoi que ce soit, c'est une prouesse d'écriture. Jusqu'à ces 10-15 dernières minutes. Mais ça, c'est un autre sujet, j'en reviens dessus après. Parce qu'avant de parler de ça, faut parler de la mise en scène du film. Et là, encore une fois, quel putain de bonheur. Je vais utiliser une expression désuète que j'aime pas du tout. Vraiment, je déteste cette expression. Ça fait pas cinéma français. Je vais m'expliquer. J'ai tendance à croire que le cinéma français horrifique, et notamment les mauvais cinéastes de genre horrifique, ont tendance à s'intéresser plus aux comédiens qu'à l'environnement qui entoure les personnages. Là où aux États-Unis, et c'est le talent des bons cinéastes de genre américains, on pense vachement l'horreur à travers l'environnement qui entoure les personnages. Je fais un essentialisme bas de gamme, il y a plein de contre-exemples, mais j'aime comment sa mise en scène réfléchit continuellement l'architecture de la tour, et tous ces petits détails deviennent ensuite des possibilités horrifiques. Un couloir qui mène à un parking, un conduit d'aération, une cage d'escalier, un appart en rénovation, chaque décor, c'est une nouvelle possibilité de faire peur et de créer de la mise en scène autour de ces araignées. Et surtout, ça permet à la caméra de s'amuser pleinement. Évidemment, t'as ce plan dans le couloir avec la caméra qui tourne sur elle-même. Oui, c'est le plan le plus notable, le plus démonstratif en quelque sorte. Mais si ce plan il fonctionne, c'est pas juste parce que la caméra elle tourne sur elle-même, non. C'est parce que t'as un travail sur la lumière assez blafarde. Et puis même, la question de la lumière, ça revient plusieurs fois dans le film. Quand ils utilisent des fumigènes pour chasser les araignées, quand ils font claquer des trucs de lumière pour stopper les araignées qui les poursuivent, encore une fois, c'est utiliser la lumière, cette utilisation de la lumière au cinéma pour créer de l'horreur et devenir un argument de mise en scène. Et je parle de décor, de pertinence de l'écriture, j'ai vu pas mal de gens se plaindre de la fin du film, qui est aussi, à mon avis, pas le truc le plus réussi de Vermine. Niveau mise en scène, l'attaque du parking, oui, ça fonctionne très très bien, mais je trouve ça un peu plus grossier dans sa mise en place de ses enjeux dans cette dernière partie. Par contre, je sais que des gens ont gueulé sur l'utilisation des flics dans le film, dans le dernier acte. Sans spoiler, je vois vraiment pas le problème. C'est vraiment malin, encore une fois, parce que tu dois créer cette situation de huis clos. Et comment tu crées cette situation de huis clos sans partir complètement en vrille à base de scientifiques, de choses comme ça et tout? Bah, tu utilises le truc de la cité, à savoir des flics qui bloquent la barre d'immeuble tant que le problème soit résolu. C'est même pas un sujet vraiment critique, ça va être rapidement cité que la démarche des flics, ils ont merdé, mais ça va, c'est pas Athéna non plus. Attends, il faut se calmer. Mais pour conclure, vraiment, non, je suis épaté par Vermine, qui me laisse un petit peu sur ma faim, mais qui m'a tenu tellement tout le long que je peux lui pardonner sans problème. Après, je sais que oui, c'est un cinéma qui me plaît, c'est un cinéma dont j'ai les codes. Je suis très heureux quand le film démarre et que t'as ce plan qui suit Caleb, qui rentre dans la cité, et que t'as du Benjamin Epps en fond. J'étais trop heureux. En plus, c'est un morceau que j'adore. Et puis maintenant, je sais que la team Florent Bernard et Sébastien Vanisek va faire un Evil Dead. Et après avoir vu Vermine, je suis plus que rassuré. Ah, je suis plus que rassuré. Si on leur laisse un peu les coups des franches, ça peut être vraiment fun. Franchement, si c'est du même niveau que Vermine, ouais, on va être bien. On va être très très bien.
Faut vraiment qu'on se casse là.
Si C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien et que tout va bien par chez vous. De mon côté, il y a plein de choses qui se passent dont on parlera la semaine prochaine. Il y a le bistrot d'Andrew à tourner et tout. Il va se passer plein de trucs. Vous allez voir, je vous tiendrai au courant. Mais le truc qui se passe maintenant, c'est que l'émission s'arrête et qu'elle revient vendredi. Voilà, ce vendredi, il y a un nouvel épisode. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.